Aujourd'hui, nous allons apprendre les couleurs.
Le rouge peut être un symbole de choses très positives, comme l'amour, la passion. Mais ça peut être aussi le symbole de choses beaucoup moins positives, comme la colère.
Le rose.
Quelles seront les couleurs Dior cette saison?
Il y a du rouge, du rose, du bleu pâle, du jaune. Enfin, c'est presque tout un arc-en-ciel.
Le jaune, le bleu, le rouge.
Donner le feu vert à quelqu'un. Donc ici, on fait référence au feu de circulation, vert, orange, rouge, pour la circulation des véhicules. Et quand le feu est vert, c'est bien qu'on autorise une personne à faire quelque chose.
Le gris, l'orange, le violet.
Voir rouge. Et ça, c'est quand vous êtes en colère.
Il faut peut-être dire que les effets des couleurs sur le psychisme humain ont été observés d'une manière empirique depuis les temps les plus reculés. Et ces effets ont peut-être leur racine dans nos ancêtres les plus primitifs.
Le noir, le vert, le marron.
Avoir la main verte, ce qui signifie être un bon jardinier ou une bonne jardinière.
Et le gris est toujours une couleur qu'on
toujours
boude un peu.
Gris. Non, j'adore le gris, c'est la couleur la plus pratique.
Yannick a fait une blague hier sur les problèmes financiers de l'entreprise. Tout le monde riait jaune.
De voir des fruits comme des pommes ou des cerises sur un arbre, ça m'a toujours frappé parce que c'est comme une invitation à les cueillir. C'est extraordinaire que dans un environnement vert, la nature fournisse des fruits qui sont rouges, oranges, jaunes, ce qui prouve bien que il y a une sorte d'invitation, n'est-ce pas, qui est bien entendu une invitation mystérieuse à essayer de comprendre pourquoi. Or, la couleur nous fait lire le paysage.
Le problème de l'espace a cru être évité par beaucoup de peintres abstraits qui, épris du désir de rester plan, ils pensaient que le plan était le domaine de la peinture, et qui, pour ne pas en sortir, peignaient avec des tons plats, ripollinés, des formes de la géométrie plane, avec exactement la même technique que celle des peintres en bâtiment qui peignent une salle de bain.
Le cocooning, qui est mis en avant, défie ce film en grosses chaussettes avec un chocolat chaud sous un plaid en train de regarder les feuilles qui tombent dehors. Les couleurs sont aussi spécifiques. On retrouve évidemment le marron, couleur des arbres, mais aussi le orange, couleur des citrouilles, pour Halloween.
Simplement les couleurs qui ne leur servent à rien dans leur existence, ils les nomment pas, ils les utilisent moins. Par exemple, si nous, on va se comparer à un peintre, il va vous décrire des variétés de bleus très nombreuses qui pour nous seront inutiles, donc on ne va pas s'en servir.
Si le pape, par exemple, est en blanc, c'est parce que le blanc est la non-manifestation. Et cette couleur blanche exprime un passage, le passage justement du non-manifesté entre le manifesté et le spirituel. Mmh. Et la mariée, pourquoi elle est en blanc? Parce que deux jeunes filles, elle va devenir femme. C'est-à-dire qu'il y a une mort, la mort de la jeune fille, et une renaissance qui est la femme.
Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux.
Nous sommes les deux Ivo.
Vous avez dit des schtroumpfs, ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux.
Pour un physicien, la couleur n'existe pas. On va avoir de la lumière de différentes longueurs d'onde. Ce que nous appelons couleur, c'est ce que cette longueur d'onde va faire sur notre œil et ce qui va se passer entre l'œil et le cerveau. Donc quelque part, c'est ça qui nous donne la perception. La longueur d'onde est ce qu'elle est.
Être vert, qui signifie être dégoûté, être écœuré par une situation.
La couleur rouge. Pour cette première couleur, nous avons une assiette de fraises et pour l'autre, nous avons le des piments les plus piquants du monde. Alors Laurie, tu préfères manger les fraises ou bien le des piments les plus piquants du monde?
Donc on peut dire que le rouge est associé incontestablement à la vitalité et à l'action.
Pour la couleur orange, j'espère que tu es prête. Comme nourriture, on a juste ici un bol de Cheetos. Et à côté, dans l'assiette, on a ce qu'on appelle une sèche, qui est une genre de pieuvre complètement dégoûtante avec des tentacules.
Oh my god, arc!
Pour vrai, je crois que je vais vomir.
Oh non!
À savoir qu'elle a été cuite dans une marinade, ce qui veut dire qu'elle est comestible.
De même que l'eau est associée, évidemment, à une certaine forme d'espace, à la matrice même où s'est trouvé l'homme, l'espace de l'air également d'une façon plus diffuse.
Miam miam, c'est trop bon ce plat. Guillaume, tu es vraiment un cordon bleu.
Alors Will, on est à la couleur vert et c'est moi qui l'a préparé.
Oh.
Alors en premier, on a ici un bol de kiwi comme je sais que tu aimes.
Oh, ça a l'air trop bon!
Qu'est-ce qu'il y a sous cette cloche?
Sous cette cloche, il y a ce qu'on appelle un œuf de 100 ans.
Oh! Attends, mais c'est un œuf qui est vieux de 100 ans?
En fait, un œuf de 100 ans, c'est un œuf qui est fait en Chine et il est conservé pendant plusieurs mois dans de la boue, du riz et des cendres. Le jaune d'œuf devient vert et le blanc d'œuf devient brun.
Enfin, on va avoir ce qu'on appelle les palettes tétradiques, qui sont composées de 4 couleurs ou plus. Alors, petit conseil, arrêtez-vous à 5. Après, ça devient un petit peu harlequin, un petit peu sapin de Noël, et ça risque de gâcher un petit peu votre composition.
Être dans le rouge, ce qui signifie avoir des difficultés financières.
Kandinsky, lui, entendait les couleurs.
L'uni également sera en vogue puisque nous faisons énormément de maillots blancs. Avec ou sans bretelles.
Oh, hier, Julien a failli se faire écraser par une voiture. J'ai eu une peur bleue.
Le jaune est solaire, et la nature physique de ce jaune, c'est la diffusion par excellence. Tandis que le bleu est une couleur concentrique, et est une couleur de concentration.
Et quelle sera quand même la couleur dominante cet été?
Aucune couleur dominante. Ah. Nous en restons cette année aux couleurs vives, tranchantes, c'est-à-dire rouge sur bleu ou sur vert, etc.
J'ai décidé que je n'allais pas me faire avoir par ce biais-là de 4 saisons qui changeaient de couleur, parce que d'abord, à l'époque, c'était une impossibilité, et j'ai choisi de m'habiller en noir. Ensuite, le noir, c'est une couleur très belle et j'aime assez être une silhouette et pouvoir me planquer dans un coin et passer un peu inaperçu.
Voir rouge signifie être très, très en colère.
Jaune, 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 c'est la couleur des bananes. Jaune, jaune.
La vie, c'est, je pense que c'est le fil rouge du comédien. Et je pense toujours qu'on est un instrument comme un pinceau pour mettre des petites touches de couleur sur ce qu'est la vie. Et je le vois comme ça. J'ai toujours considéré que mon métier, c'était de l'artisanat et que c'était de mettre des petites touches de couleur.
Être blanc comme un linge. Cela signifie que vous êtes très pâle, très blanc.
On peut dire que le vert est au contraire associé à une idée de défense passive,
c'est
de
cela.
Préservation même.
C'est cela, oui, et de réflexion même, et d'échange.
D'où d'ailleurs l'expression même moderne, tapis vert pour les salles de conférence.
Dans les collections d'hiver, il y a 3 choses qui ont eu surtout du succès. Nous avons 2 tissus unis, un qui est un poil de chameau, qui est un grand classique mais qui marche toujours, surtout en beige, coloris d'origine, et en gris aussi.
Je ne peux vraiment pas parler d'une préparation concertée et réfléchie, ce qui nécessiterait une complète mise au point de la peinture par avance. Mais la première impulsion m'apporte souvent des taches colorées qui peuvent disparaître par la suite pendant le travail. Et s'il y a lieu, je les utilise pour animer les couleurs qui s'y superposent. Si la couleur d'une de ces taches ne me plaît pas, je la recouvre d'une autre couleur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cela me paraisse satisfaisant. Il arrive de cette manière que ces couches superposées jouent les unes avec les autres, donnent une qualité particulière au ton final, le rendent vivant. Les couleurs passées à plat me déplaisent souvent. Je les trouve froides, impersonnelles, sans résonance humaine.
Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux. Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu.
voudrais que nous parlions maintenant des tissus que nous verrons au printemps et à l'été prochain. Est-ce que nous allons un peu sortir des sombres fonds noirs que nous avons vus tout l'été durant sur les plages et partout?
Oui, cet été, la collection sera très claire. Elle sera gaie.
Marron, c'est la couleur des cheveux.
Qui signifie être forcé, être obligé de rire.
Le noir, est-ce qu'on ne le verra plus du tout, du tout, du tout?
Je crois qu'il sera un petit peu abandonné au profit des coloris beaucoup plus clairs.
Il y a des couleurs plus complexes que le primitif a ignorées, c'est le violet par exemple. Et il a fallu attendre les Grecs, mais les Grecs même n'avaient pas encore désigné un mot. Et c'est là que la linguistique joue un rôle très important dans la désignation des couleurs et dans la vision des couleurs. Parce que ce qu'on ne peut pas désigner véritablement, on ne le voit pas. On le regarde, mais on ne le voit pas.
Quand j'étais jeune, j'étais passionné du Grand Nord, donc j'avais appris la langue des Inuits, les Inuktitut. Et pour le blanc, il y a énormément de mots pour décrire toutes les nuances de blanc en fonction de, de l'heure de la journée. Pareil pour la neige, suivant l'état de fonte.
Enfin, c'est cette conjugaison des deux pôles, du spectre, du rouge et du bleu, qui sont des couleurs... contrastant.
Parmi les séries à découvrir à la Villette, on retiendra entre autres celle consacrée aux États-Unis. Pas de grand format ni de couleurs saturées ici, comme c'est le cas la plupart du temps pour traiter de ce sujet. Au contraire, il s'agit cette fois de tirages en petit format et en noir et blanc.
Et dès le départ, les couleurs sont en force. Sombres d'abord, puis éclatantes, elles envahissent le tableau, débordant presque du cadre.
Le noir, négation de la couleur, le blanc, potentiel des couleurs, mais enfin ce sont des pôles inversés.
Stahl, c'est qui sait mettre ensemble des couleurs que personne n'oserait associer a priori. Et là, il y a là une sorte de joie visuelle extraordinaire pour le spectateur.
Aujourd'hui, on est arrivé à un état des connaissances qui ne va pas tellement bouger dans le futur. Non, l'historien sait bien que chaque génération croit être parvenue à une certaine vérité. Et puis, le savoir continue de s'enrichir, de se nuancer, de se compléter. Ce que pense aujourd'hui la physique ou la chimie des couleurs fera peut-être sourire les chimistes et les physiciens dans 5 ou 10 siècles.
Rire jaune, c'est marrant comme expression.
Ah, noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes.
Pour nous, dès l'école maternelle, nous avons appris, nous savons que pour faire du vert, on mélange du jaune et du bleu. Ça nous semble une espèce de vérité. Mais c'est assez récent comme vérité. Les peintres et les teinturiers médiévaux, ils savent très bien faire du vert, mais ils procèdent le plus souvent autrement, parce que dans le classement médiéval des couleurs, le vert n'est pas à mi-chemin entre bleu et jaune. Il est très proche du bleu, mais il est loin du jaune. Pour qu'il y ait un classement où le vert est entre le bleu et le jaune, il faut attendre la fin du XVIIe siècle, la découverte du spectre par Newton.
Lorenz est convaincu d'une chose, la couleur, dans un film, ça change tout.
Parce que comme la musique, la couleur se développe dans le temps et dans l'espace. Et c'est pourquoi j'appelle la couleur la musique du silence.
En fait, les couleurs s'agencent entre elles, mais pas de n'importe quelle manière. Il va y avoir des harmonies plus ou moins douces à l'œil, des contrastes plus importants en mariant certaines teintes entre elles. Donc pour ceci, on va se servir d'un cercle chromatique.
Orange, 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 c'est la couleur des oranges.
Le bleu cyan et le jaune orangé, deux couleurs opposées sur le cercle chromatique. L'opposition symbolique de ces couleurs raconte la psychologie du personnage, qui oscille entre fragilité presque infantile et folie meurtrière.
Voir la vie en rose signifie voir les choses d'une façon excessivement romantique.
Dalton, c'est d'ailleurs, en fait, c'était un chimiste.
Oui.
Et c'est vrai qu'il avait remarqué, c'était donc la fin du XVIIIe siècle, il avait remarqué qu'il ne voyait pas les couleurs comme la majorité de ses collègues. Son frère était dans le même cas, mais autour de lui, ceux qui l'entouraient n'arrivaient pas à le croire. Et il a fait cette observation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a noté cette observation. Il a publié les faits extraordinaires à propos de la vision. Il existait un rapport déjà en Angleterre sur une famille où 5 ou 6 individus étaient, semblaient avoir ce que nous appelons maintenant des défauts de vision des couleurs, c'est-à-dire non pas une absence de vision des couleurs, mais une vision en couleurs différente.
Dans Le Dernier Empereur, au fur et à mesure que le personnage grandit et évolue, sa palette de couleurs change aussi, passant du rouge de son début de vie mouvementé, à l'orange réconfortant d'une enfance impériale, au jaune de l'apprentissage du pouvoir, au vert quand le monde extérieur s'ouvre à lui, et ainsi de suite jusqu'au bout du spectre des couleurs.
Être un cordon bleu, ce qui signifie être un bon cuisinier ou une bonne cuisinière.
Le vert est une couleur froide, donc peu dynamisante. Et peut-être que les gens de théâtre et les spectateurs ont besoin de quelque chose de plus excitant, en quelque sorte, pour mieux comprendre et pour participer au jeu du théâtre.
Ce qui caractérise ce qu'on appelle les daltoniens, c'est de confondre certaines couleurs que la majorité distingue. Alors, comme c'est la majorité, d'une part, c'est toujours la majorité qui a le dessus et qui va donner la norme, mais il est exact qu'il y a une perte d'information au niveau des nuances.
Cette hypothèse du lien entre les couleurs et les émotions est un héritage direct du Traité des couleurs, écrit par Goethe en 1810. Depuis, la science tente de vérifier ces idées et de nombreuses recherches sont toujours en cours. Certaines études affirment qu'il existe bien un lien universel entre des catégories d'émotions et des couleurs associées.
À cause de la dispersion, chaque goutte va émettre des cônes de réflexion qui vont être légèrement différents pour chacune des longueurs d'onde de la lumière. Vu de loin, notre arc de surbrillance sera en fait constitué de plusieurs arcs légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Un tout petit peu plus grand pour le rouge, un tout petit peu plus petit pour le violet. Et ce qu'on va voir au total, c'est donc la superposition de tous ces arcs de surbrillance. Et dans le cas de l'arc-en-ciel, chaque goutte émet l'ensemble des longueurs d'onde, le rouge, le vert, le bleu, mais dans des directions qui sont légèrement différentes pour chaque couleur.
L'hypothèse que Dalton avait faite, c'est qu'il y existait un filtre dans son œil qui empêchait, en quelque sorte, une partie de la lumière de parvenir jusqu'à sa rétine. On n'a pas trouvé de filtre. On sait maintenant pourquoi. On connaît maintenant l'origine du daltonisme. L'origine du daltonisme, c'est l'absence ou bien la modification d'un des pigments visuels compris qui est inclus dans notre rétine.
Cette couleur dans l'arc-en-ciel, on apprend ça dès l'école primaire, mais ça n'est pas une vérité, c'est une convention. Et au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, les arcs-en-ciel sont constitués autrement. Le phénomène météorologique n'a pas changé au fil de l'histoire, mais le regard, lui, a changé parce qu'il est fortement culturel. Au Moyen-Âge, il y a tantôt 3, tantôt 4, parfois 5 couleurs dans l'arc-en-ciel.
Les couleurs primaires, qui sont les 3 couleurs de base, dira-t-on, qui ne sont, elles, obtenues par aucun mélange, qui sont donc le jaune, le cyan et le magenta.
Bleu, jaune, vert, doré et rouge. C'est-à-dire une séquence qui n'a pas grand rapport avec notre arc-en-ciel. Et surtout, le vert n'est pas entre le jaune et le bleu. Ici, il est entre le jaune et le doré. Il y a souvent du doré dans les arcs-en-ciel antiques et médiévaux.
Il y a ensuite les couleurs secondaires. Porte bien leur nom, ce sont des couleurs qui sont obtenues par le mélange des couleurs primaires précédentes. Donc on va donc avoir le vert, le orange et le violet.
Nos pigments visuels tout seuls sont incapables de voir les couleurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils détectent les photons de lumière. Et ils détectent de préférence des photons qui sont associés à des courtes longueurs d'onde du spectre visible, on va dire au bleu violet, des photons qui sont absorbés aux moyennes longueurs d'onde visibles, donc effectivement dans le vert, et des photons qui sont absorbés à des longueurs d'onde visibles un tout petit peu plus grandes, mais qui sont majoritairement orange et jaune. Nous n'avons pas de pigments visuels sensibles, par exemple, dans la partie que nous voyons rouge du spectre.
Regardez les maisons de campagne de nos grands-parents. Il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge.
Je rappellerai que les peintres définissent trois couleurs de base ou primaires, le bleu, le jaune ou le rouge. Et trois couleurs composées, le vert, l'orange et le violet. Bah, le vert, par exemple, résulte du mélange de pigmentation bleu et jaune. L'orangé résulte de jaune et de rouge. Le violet, c'est l'addition, en quelque sorte, de bleu et de rouge. Lorsqu'on associe des couleurs froides, on réchauffe l'une et l'autre, lorsqu'elles se jouxtent, bien sûr. Lorsqu'on emploie des couleurs de genre opposé, il est facile de déduire que deux couleurs, une chaude et une froide, par exemple, juxtaposées, vont s'exalter réciproquement.
Eh bien, mesdames, sachez que, naturellement, quand vous portez du rouge, vous éveillez en nous un désir très fort. 25% de désir en plus pour les hommes.
Il y a le fait que nos prédécesseurs ont travaillé pendant longtemps, historiens, historiens de l'art, archéologues, sur une documentation en noir et blanc. La photo, bien sûr, mais avant même la photo, la gravure, imprimée à l'encre noire sur du papier blanc. Et au fil des siècles et des décennies, les modes de pensée sont devenus un petit peu en noir et blanc. Et malgré l'accès plus important et rapide à l'image en couleur, j'ai encore aujourd'hui des collègues ou des amis spécialistes de la peinture du XVIIe siècle qui préfèrent une documentation en noir et blanc pour étudier l'œuvre d'un peintre, Rubens, Poussin, etc., avec l'idée que la couleur, ça gêne le regard, ça triche, ça trompe.
Et sachez, mesdames, que vous en avez conscience, ou alors c'est inconscient, mais vous le savez. Une étude portée sur les sites de rencontres où on a regardé comment la couleur des vêtements des femmes sur leurs photos de profil. Les femmes qui recherchent le grand amour sont 5 fois moins souvent habillées en rouge que celles qui recherchent le grand frisson. Et oui, le rouge est une couleur qui crée le désir chez l'homme.
On a aussi une palette de couleurs qu'on appelle achromatiques, qui sont donc le blanc, le noir et le gris.
Sachez que vous aurez 25% de pourboire en plus au restaurant quand vous êtes habillé en rouge.
On va avoir notre teinte pure, qui va être au maximum de sa saturation, va-t-on dire, et en allant vers l'ombrage ou vers la nuance, on va se retrouver avec des teintes de plus en plus désaturées.
Avoir une peur bleue. Avoir très peur.
Quand vous portez du rouge, vous êtes physiquement plus fort, votre adversaire vous sent plus fort, même l'arbitre, en conditions égales, vous sent plus fort quand vous êtes en rouge.
Être vert de rage, être très en colère.
Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que fut signalée l'existence d'hommes dont la vision colorée semble anormale. Un siècle plus tard, le célèbre chimiste Dalton, en analysant son propre cas, inaugura l'étude scientifique du problème, d'où le nom de daltonie.
Rire jaune. Rire de manière forcée.
D'un point de vue pratique, s'habiller en rouge fait de vous un leader.
Le daltonisme, c'est en somme l'absence de certaines cellules qui colorées, enfin réagissant à la couleur. Et nous trouvons entre autres actuellement des anomalies qui sont classées en 3 types principaux. Et en gravité croissante, on les appelle trichromatisme anormal, dichromatisme et achromatopsie.
Est-ce que c'est une lumière? Est-ce que c'est une matière? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une perception?
On va aussi pouvoir identifier ce qu'on appelle les teintes complémentaires. Alors c'est simple, en fait c'est 2 teintes qui sont diamétralement opposées sur votre cercle. Donc pour le rouge, ce sera plutôt un vert ou un bleu. Pour le jaune, ce sera plutôt un violet. Pour l'orange, en fonction de l'intensité de votre orange, ce sera plutôt un violet ou un vert. Alors, utiliser des teintes opposées dans votre composition, ça va avoir un avantage, c'est que ça va créer un fort contraste.
Vous êtes-vous déjà vu avec un rouge à lèvres qui ne flattait, par exemple, pas du tout votre teint, ou peut-être avec une coloration capillaire qui vous ternissait le visage? Pour ma part, ça m'est déjà arrivé, et ce que j'ai pensé à ce moment-là, cette couleur ne me va pas du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette couleur ne me va pas du tout? Eh bien, ça veut tout simplement dire que la couleur en question ne m'allait pas au teint.
L'or, c'est à la fois une lumière, une matière et une couleur. Ça complique les problèmes. Mais comme les autres couleurs, il a ses bons et ses mauvais aspects.
Des couleurs, il y en a qui sont légères. Par exemple, une caisse peinte en vert, à poids égal, peut paraître,
paraître
moins lourde aux épaules que la même caisse en noir.
Oui, et moins encombrante.
Et moins encombrante aussi.
Aussi.
La couleur, les couleurs n'existent pas. Du moins, elles n'existent pas en soi. Les couleurs sont toujours le résultat d'une interaction. Bien sûr, un phénomène physique les provoque. Il s'agit du rayonnement électromagnétique. Mais où nous voyons du bleu ou du rouge, le rat, par exemple, ne voit que du gris.
On va aussi avoir la palette de teintes analogues. Là aussi, on peut parler de camailleux, puisque c'est un petit peu le même principe. On va se servir de deux, trois, généralement, c'est même conseillé d'en utiliser trois, teintes qui sont côte à côte sur votre cercle chromatique. Donc là encore, on va avoir un visuel qui sera très peu contrasté, mais qui sera excessivement harmonieux.
Pour faire simple, la colorimétrie, c'est l'étude approfondie des couleurs pour déterminer leur influence positive ou négative sur votre teint. Est-ce que telle ou telle couleur vous donne bonne mine, ou au contraire, vous donne l'air de n'avoir dormi que 3 heures la nuit dernière?
Les voitures blanches, par exemple, sont passées de 5% du marché neuf en 2006 à un tiers aujourd'hui. En clair, la production de masse a standardisé les produits conçus pour plaire au plus grand nombre.
C'est nous qui, finalement, captons cette information, mais la reconstituons complètement pour nous former une image. Et c'est l'image que nous avons dans notre tête, que nous voyons, ou celle à partir de laquelle nous examinons ce qui se passe autour de nous, et nous examinons des variations de couleurs, alors que dans le monde physique qui nous entoure, ce sont des variations spectrales que nous sommes incapables d'analyser finement.
Le smoking, d'abord bleu nuit, glissera vers le noir, qui deviendra une couleur courante en période de deuil général post-Première Guerre mondiale. Cette sobriété est vite transformée en symbole d'élégance féminine pendant les années folles, et en 1926, une certaine Coco Chanel sort sa petite robe noire.
Imaginez que je prenne une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est 400 nanomètres. Et que je la balance dans votre œil. Qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir du violet. Si l'onde avait une longueur de 450 nanomètres, ça serait plutôt indigo, à 500 nanomètres du bleu, vers 550 du vert.
Pour nous, le bleu est froid. Hein. Dans nos salles de bain, le robinet d'eau froide, il a une pastille bleue. Ça nous semble une vérité. Eh bien, c'est une vérité qui a une histoire courte. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XVIIe siècle, le bleu est chaud, couleur chaude, même parfois présentée au Moyen-Âge comme la plus chaude de toutes les couleurs. Imaginons un historien de l'art qui étudie, je ne sais pas moi, un panneau italien du XVe siècle, qui se dise « je vais étudier la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides sur ce panneau ». S'il pense que le bleu est froid, comme pour nous aujourd'hui, il va se tromper complètement et dire des âneries épouvantables.
La couleur, c'est avant tout une perception. C'est un truc qui est fabriqué par notre cerveau. Au départ, les ondes électromagnétiques, elles n'ont pas de couleur, hein, elles ont une longueur d'onde. Et c'est seulement une fois que ça arrive dans votre œil que votre cerveau l'interprète et que ça vous donne une sensation qu'on a pris l'habitude d'appeler les couleurs.
Pourquoi est-ce qu'on ne met plus de vêtements colorés? On oublie l'usage de la couleur. Moins on utilise de couleurs, plus on en a peur. Et donc, quand on ouvre son placard le matin, on se dit « comment je vais m'habiller ?» On s'habille en beige, on s'habille en bleu marine, on s'habille en écru. On sait qu'on ne fait pas de faute de goût. Moins il y a de couleurs autour de nous, moins on a envie de porter de la couleur.
Depuis qu'on a des enquêtes d'opinion comme cela, quelle est votre couleur préférée? C'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, les résultats sont toujours les mêmes. Les bleus,
le bleu,
la moitié de la population à peu près, puis vert, mais très loin derrière, autour de 15-20%, puis rouge, puis noir, puis blanc.
Vous avez déjà remarqué que dans l'arc-en-ciel, il n'y a pas de rose. C'est vrai, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rouge, mais il n'y a pas de rose. Alors pourquoi il n'y a pas de rose? Eh bien, le rose, c'est cette sensation que notre cerveau fabrique quand le cône bleu et le cône rouge sont tous les deux excités par des ondes lumineuses, mais pas le cône vert.
Lorsqu'on parle couleur, je crois que nous en oublions très souvent le sens exact. Il arrive qu'un peintre en bâtiment, voire un artiste, nomme couleur le produit qu'il met dans son pot de peinture ou sur sa palette, alors que ce sont là exclusivement des pigments ou matières colorées. Par contre, un physicien aura tendance à dire qu'il s'agit de résultats de la décomposition de la lumière blanche par le prisme, alors que cette expérience fameuse de Newton ne donnent que des lumières colorées, invisibles dans une chambre parfaitement noire, et qui ne deviennent visibles que si elles sont reçues par un écran réfléchissant qui les renvoie vers notre œil. Cette observation nous conduit d'elle-même vers la définition exacte de la couleur. La couleur est la sensation physiologique obtenue sur notre rétine et transmise à notre cerveau par la vision d'un objet coloré normalement éclairé.